Héloïse d'Ormesson, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venue à Bordeaux pour nous présenter le dernier livre que vous publiez aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui est le dernier livre de votre père, Jean d'Ormesson, qui s'intitule « Un hosanna sans fin ». Et je voudrais démarrer par la fin du livre, à savoir, à la toute fin de ce livre, votre père écrit en vous disant, moi je l'ai lu comme ça, j'ai l'impression qu'il s'adresse à vous, et en vous disant, finalement, je vais aller vérifier qu'il y a un Dieu, qu'il existe. Est-ce que vous pensez que votre père avait envie de vous rassurer? Vous savez où le trouver maintenant, non?
Ah oui, enfin, je l'ai dit déjà une ou deux fois, enfin en tout cas le 5 décembre, j'ai vraiment compris qu'il y avait des mots qui étaient totalement impropres quand on parlait des morts. C'était de dire qu'ils étaient... Pardon, parce qu'il y a toujours un moment d'émotion.
Je vous en prie.
Qu'ils étaient disparus ou qu'ils étaient partis. Mon père est parmi nous ce soir, dans nos cœurs, dans nos mémoires, et évidemment dans ce livre. D'ailleurs, on l'entend à chaque ligne de ce livre. Et je pense que c'est déjà avoir ce livre est extraordinaire. Qu'il ait publié, que trois livres de lui soient parus cette année, puisque en janvier est paru « Et moi, je vis toujours ». En septembre est paru « La Pléiade », enfin le deuxième tome de « La Pléiade ». Et donc, on vient de publier en novembre « Un hosanna sans fin ». Ça, c'est aussi presque un miracle, en tout cas une joie infinie. Et ce qui est aussi magnifique, c'est que Et moi, je vis toujours est un. J'adore ce livre, je le trouve vraiment magistral. C'est un excellent Jean d'Ormesson. Mais comme il traverse les siècles, évidemment, on l'entend et on le reconnaît parfaitement. Mais on ne l'entend pas exactement comme dans ce livre-là, Un hosanna sans fin, où à chaque ligne, à chaque page, on a l'impression qu'il vous murmure à l'oreille. Et ça, c'était encore, enfin, c'était un triple cadeau. Parce que avoir un dernier livre testament, et en plus un livre testament où l'auteur vous chuchote à l'oreille et vous le retrouvez.
Alors, il s'adresse à vous, et pas seulement dans ce livre-là, vous en avez publié d'autres. Et, pardon, moi, j'ai vraiment cette conviction. Alors, l'histoire raconte qu'il vous a laissé son bureau à un moment donné. Il vous a laissé cet espace.
Alors, j'ai fait une digression, c'est mon grand... En plus, il y avait un petit peu d'émotion au départ. Mais j'ai pas complètement répondu à votre question. C'est-à-dire que, en effet, la dernière page de « Un hosanna sans fin » m'a totalement surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le dernier mot de ce livre soit celui-là, puisque mon père s'est toujours interrogé sur le sens de la vie, sur l'énigme de la vie et du monde, et s'est éternellement posé la question de Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, parce que pour lui, c'était la question centrale, encore une fois, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et il a maintes fois dit qu'il espérait en Dieu, qu'il n'avait pas eu la chance d'avoir la foi, qu'il avait peine à croire que le monde puisse être ce qu'il était sans Dieu, mais enfin, donc il a beaucoup douté et il s'est posé une infinie de questions qu'il a traitées à travers un certain nombre de livres. Cette question, il la traite encore une fois dans ce dernier livre. Et la dernière page de ce... Parce que l'avant-dernière page, pour moi, est 100% Jean d'Ormesson, tout à fait sa manière, son esprit, puisqu'il parle d'une lueur qui apparaît d'un coin de ciel bleu dans un ciel sombre, je cite de mémoire, et je le reconnaissais à 300%, et ce livre aurait pu finir à cette page, et tout m'aurait semblé complètement... Enfin, ça lui ressemblait beaucoup. Et puis, il y a cette dernière page. Depuis, j'en ai quand même pas mal parlé avec un certain nombre de journalistes, de croyants. Et il semblerait que c'est assez fréquent, je ne sais pas, mais enfin, que c'est probablement ce qui s'appelle la grâce. Et dans les derniers moments, il a été touché par cette grâce. Et finalement, on m'a aussi beaucoup dit que mon père était... Parce qu'il avait toujours expliqué qu'il était un chrétien agnostique. Bon, chrétien, c'est évident. Il s'inscrit dans une tradition chrétienne, c'est sûr. Mais il ne se pensait pas, ou en tout cas revendiquait pas, son catholicisme. Mais on m'a beaucoup dit qu'il était un catholique qui s'ignorait. En tout cas, dans une file tradition catholique plus rare, mais des catholiques qui doutent, parce qu'il paraît que c'est... ça existe. Et il semblerait, voilà, que cette fin, cette fin de vie, il ait été touché par la grâce.
Alors, moi, je l'ai vraiment eu de cette façon-là. J'ai l'impression qu'il délivre un message assez rassurant en disant « J'ai encore un truc à faire ». Ça lui ressemble, hein.
Oui, non, mais ça, de toute façon, il avait encore un truc à faire. Et puis certainement, quoi qu'on... Enfin, sans même préjuger de ce qu'il croyait ou ce qu'il ne croyait pas, il est évident que la mort ne lui faisait pas peur, ça c'est sûr, et il intriguait. Enfin, en fait, mourir ne lui faisait d'autant moins peur qu'il s'est dit, mais après tout, la mort procède de la vie. Moi, j'ai passé ma vie à essayer de comprendre la vie, donc comprendre la mort après tout, enfin, ou découvrir ce que c'est, ça m'amuse. Enfin, pourquoi ? Enfin, voilà, c'est encore un autre mystère, et plongeons. Donc, à mon avis, c'était pour lui, c'était pas un... enfin, ça, comme c'est quelqu'un d'extraordinairement curieux. Voilà.
Alors, donc, je reviens sur cette histoire de bureau qu'il vous a laissé, qui semble, je trouve, dans votre histoire littéraire à tous les deux, comme une histoire que vous avez écrite ensemble, qui pourrait être un échange de lettres, un échange littéraire, un échange assez romanesque, peut-être un point de départ. Après, vous l'avez publié sur des ouvrages qui ne sont pas politiques, qui relèvent plus d'une forme de dialogue poétique. Et donc, celui-ci serait, enfin, à mon sens aussi, quand même, une discussion avec vous qui l'aura mené jusqu'au bout. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir cette sensation avec votre père de cet échange littéraire ?
Alors, oui, bien sûr. Mais je dirais qu'il est... Comme il était avec moi, comme il était dans la vie, enfin, mon père fait partie de ces rares personnes. Il n'y a pas tellement de distance entre le père et l'homme public. Je veux dire, le gendarme son qui vous appartient, votre gendarme son, bah, évidemment, il est différent du mien parce que c'était pas votre père, mais disons que son érudition souriante, son immense curiosité, sa pétillance, sa reconnaissance vis-à-vis du monde, son ouverture au monde, son appétit de dialogue. Je pense que vous l'avez tous éprouvé, directement ou indirectement, à travers ses livres, en l'entendant à des émissions. Bon, moi, je le vivais de manière beaucoup plus proche encore, mais il était... c'est-à-dire que quand il était sur un plateau de télévision ou quand il était interviewé par un journaliste, il n'était pas très différent du père avec lequel je dialoguais. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui aimait le dialogue, qui aimait la discussion, qui aimait être non pas critiqué, mais enfin qui aimait vraiment qui trouvait stimulant d'avoir un avis divergent, d'entendre un autre point de vue. Donc oui, on était extraordinairement complices. Alors moi, je me suis jamais imaginé qu'il avait écrit ce livre, qu'il me le destinait. Il m'avait toujours dit qu'il souhaitait que je le publie, qu'il voulait que ça soit les éditions qu'il publie.
Ce qui n'est pas anodin.
Non, c'est pas anodin. Alors ça s'inscrivait aussi, il y avait une logique, parce qu'il m'avait confié comme un champ d'espérance, et il considérait que Un Hosanna sans fin était le troisième volet et la fin d'un triptyque, de ce qu'il avait conçu comme un triptyque. comme un champ d'espérance, guide des égarés, un hosanna sans fin. Ben effectivement, il m'a confié ces trois livres. Alors moi, je me suis jamais... Vous êtes la première.
Vous n'avez jamais imaginé cette trilogie comme étant adressée à vous? Parce que quand on les lit, quand on lit cette trilogie, il y a évidemment quelque chose qui relève, bien sûr, de l'écrivain, de l'auteur et d'un public, certes, mais tout de même...
Ben c'est très intime. Non, mais c'est évidemment très intime. Enfin, je suis fille unique. J'ai un certain... mais non, j'avais.
Du coup, je vous ai troublé.
Vous me pardonnez. Oui, non, mais je suis. Ça sera encore plus. C'est encore plus. Encore plus émouvant, encore plus. Mais je pense que c'est un dialogue peut-être avec moi, mais avec nous.
Bien sûr. Il y a quand même quelque chose, à mon sens, un lien d'écriture avec vous. Est-ce qu'il vous écrivait? Est-ce qu'il a eu l'occasion, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger des lettres?
Peu. Non, peu. Il passait des coups de fil. On se voyait quand même beaucoup. Alors j'ai effectivement vécu pendant 4 ans aux États-Unis quand j'avais 20 ans. Ça remonte à quand même un certain temps. Mais à ce moment-là, il m'appelait, il m'a écrit, oui, il m'a écrit un peu à ce moment-là. Mais depuis 20 ans, ou depuis, je sais pas, depuis longtemps, on habite la même ville et je le voyais minimum une fois par semaine, sinon deux fois. De toute façon, mon chéri me dit deux choses. Mon chéri me dit... Il s'appelle Gilles Cohen-Solal. Donc il me dit, moi j'avais toujours voulu échapper à l'héritière juive parce que le côté séfarade, clanique, je fuyais ça. Et je suis tombée sur la seule catho aristo où ils sont plus claniques et plus le père est totalement envahissant. Donc je suis poursuivie, c'est une fatalité. Donc ça c'est la première chose. Et il me dit, depuis que ton père est mort, il est encore plus présent entre nous. Ce qui est certain, je vous dis encore une fois, je pense que les morts sont invisibles, ça c'est clair, mais ils sont extraordinairement présents. Enfin,
vous avez dit aussi qu'en fait, au moment où vous avez monté cette maison d'édition en décidant de l'appeler les éditions Héloïse d'Ormesson, bon, il a été question d'un échange entre vous et lui au sujet du nom, et aujourd'hui, ce nom d'Ormesson. Comment est-ce que vous le portez?
Alors, évidemment, c'est un nom dont je suis fière. Au départ, je ne voulais pas du tout appeler la maison Héloïse d'Ormesson, parce que je voulais... parce que moi, j'étais partie du principe qu'un éditeur, ça s'efface derrière ses auteurs. Donc, mettre son nom de famille et s'inscrire sur la couverture du livre, aussi beau que puisse être son nom... n'était pas du tout essentiel. Donc je pensais appeler la maison H2O. Et puis un ami éditeur m'a dit, mais enfin Héloïse, t'as un nom qui est une marque, ou à peu près, enfin qui est un nom qui va vous permettre de gagner des années en notoriété, en reconnaissance. Donc vous êtes fou. Si vous lancez cette maison et que vous l'appelez pas Héloïse Ormesson, vous tirez une balle dans le pied. Donc j'ai un peu réfléchi et on a finalement effectivement reconnu que c'était un plus d'appeler la maison et les huit maisons. À partir de là, il a fallu, parce que une des raisons pour lesquelles je voulais appeler cette maison H2O, c'était aussi parce que je trouvais agréable, confortable de pouvoir m'abriter derrière les auteurs et de ne pas apparaître. Parce que moi, quand on a créé la maison, il y a 14 ans, 15 ans, je voulais pas du tout me mettre en avant. Bon, j'étais pas du tout une femme de mon époque, visiblement, parce que je pense qu'il faut aujourd'hui, il y a une pipelisation des choses. Et on avait envie d'entendre parler au moins autant de l'éditeur que de ses auteurs. Et il a fallu que j'incarne la maison. Et je pense que ça a été une bonne chose, et pour la maison, et pour les auteurs. Mais si elle n'avait pas porté mon nom, je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas été obligée de le faire. J'aurais pu jouer les choses beaucoup plus discrètement et passer un petit peu en douce et en clandestine. Donc déjà, j'ai été obligée d'incarner publiquement ce nom. Et aujourd'hui, depuis la mort de mon père, en effet, il y a un petit... Vous êtes un certain nombre à m'avoir demandé de signer son livre, ce qui est quand même un peu... Ce qui me fait très plaisir, ça me fait plaisir parce que ça lui aurait fait plaisir, ça me fait plaisir parce que ça vous fait plaisir, mais c'est quand même un peu incongru parce que je suis pas l'auteur de ce livre. Alors je suis l'éditeur, j'ai écrit l'avertissement, enfin on peut trouver, mais et je suis pas sûre qu'on demanderait à beaucoup d'enfants de l'auteur de signer. Enfin bon, alors c'est vrai qu'il y a une configuration qui est assez particulière, je le reconnais, mais bon. C'est déjà étrange. Alors, il disait couramment « inutile de connaître loi quand on aime le foie gras ». Mais alors, connaître l'oison quand on aime le foie gras, là, c'est très... mais il est évident qu'il était de son vivant un phénomène et que... qu'on lui est tous si attaché que, comme j'incarne un tout petit peu quelque chose de lui, quand j'arrive et que je me présente, il y a un effet. Ce nom, immédiatement, fait surgir quelque chose. Alors, ça a toujours été vrai, parce que tous nos noms évoquent quelque chose. Les patronymes, c'est d'ailleurs fait pour ça. C'était vrai avant, mais là, maintenant, il y a un peu de lui. Quand je me présente, on fait tout de suite le lien.
Alors, dans ce livre, plus que jamais, en fait, Jean d'Ormesson apparaît comme un mélange du petit prince très curieux qui s'interroge de tout, qui pose des questions sur tout, de Cocteau qui a une vision très romanesque de la vie, assez dérisoire aussi parfois, et de Newton qui ne se lasse pas de tout ce qui va être scientifique. On a quand même la sensation qu'il est l'émotion tout le temps. Il a peu de distance, finalement. Votre père était comme ça. Il avait peu de distance et il était capable de vous parler à cœur ouvert, directement.
Je crois que dans ce livre-là, est quand même à la fois la quintessence de son œuvre et assez à part. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté détective métaphysique. Mais il revient à l'âme et à l'être. Il avait fait des grands... il avait exploré l'espace, le cosmos, l'univers, avec, et moi je vis toujours, c'était les siècles, toute l'histoire. Là, il revient à l'individu et à l'âme. Et à lui... Bon. Et à son questionnement. Donc il est beaucoup plus personnel dans ce livre. Alors, il est toujours pétillant et drôle, mais quand même un tout petit peu moins, je dirais, que dans d'autres textes, parce que c'est un livre qui est l'épure de son œuvre. Quoi. On sent qu'il est... qu'il s'est délesté d'un certain nombre de choses et qu'il va vraiment à l'essentiel. Parce qu'il sait que les minutes sont comptées et qu'il a un dernier message à délivrer. Et que ce dernier message, un message d'espérance incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'espoir en héritage, ce livre.
Est-ce que, finalement, il reste cet héritage, précisément, cette façon de travailler le livre dans les éditions Héloïse d'Ormesson? En détail, qu'est-ce qu'il reste?
Aux éditions, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a vraiment on travaille avec un esprit de famille. On joue sur la convivialité, on joue sur la chaleur, l'amitié. Ça fait partie des valeurs de la maison, ça c'est certain. Maintenant, c'est plutôt à titre personnel que mon père m'a légué, m'a appris qu'il fallait vivre le moment présent, qu'il fallait surtout ne rien regretter, parce que si on passait sa vie à regretter, on ne vivait pas sa vie. Que finalement, avant... De toute façon, il n'y a pas d'issue. Hein. La vie, elle est à la fois extraordinaire, belle, splendide, magnifique, et atroce, douloureuse, effrayante, monstrueuse. Donc, ou vous passez votre vie à ne relever que ce qui est monstrueux, douloureux, ou vous essayez de retenir ce qui est magnifique. Bon, il m'a appris ça. Et je sais que, alors même si par moment... Je crois que j'ai vraiment il m'a légué ça. C'est-à-dire que je parviens à ne pas me laisser entamer par les difficultés, par l'adversité. Je suis complètement éberluée par les gens qui passent leur temps à se plaindre, qui est quand même un mal français. Alors on me disait qu'il était l'esprit français, mais il n'était pas du tout dans la plainte et dans la complainte, sauf celle du juif errant. Et non, ça, effectivement, j'ai hérité. Il m'a transmis cette envie, ou plutôt ce regard étonné. Enfin, j'essaye de porter un regard aussi étonné sur le monde que lui. J'y parviens pas complètement, mais en revanche, je suis pas dans la plainte et dans les lamentations, parce que ça ne sert à rien et que ça vous use et ça use les autres et on vous renvoie des ondes négatives. Et ce qu'il faut, c'est recueillir des ondes positives et soi-même en essayer d'en générer.
Cette philosophie est un héritage de famille.
Alors, j'ai peu connu ma grand-mère maternelle et mon grand-père paternel était mort quand je suis née. Donc, ce que mon père m'en a dit, enfin, ce que j'ai compris, c'est que c'était un homme d'une intégrité absolue, que c'était un homme qui était la tolérance même. Alors ça, je pense qu'il l'avait vraiment aussi transmise à mon père. Et là aussi, je pense que j'ai hérité de cette... je ne sais pas si c'est une qualité, mais... Tout en ayant retenu la leçon, puisque mon grand-père avait dit à mon père en 1933 en Allemagne, puisqu'il était consul de France à Munich, et que mon père, à l'âge de 6 ans, était sur un balcon, voyant les jeunesses hitlériennes passer dans la rue. À 6 ans, on n'avait pas la moindre idée de ce que c'était que les jeunesses hitlériennes. Voyait des jeunes gens chanter et applaudis par la foule. Et donc, à lui-même, applaudi, et était très heureux de voir tous ces jeunes gens défiler. Et son père a surgi derrière lui et lui a donné la seule claque, ou la seule gifle qu'il lui ait jamais donnée de sa vie. Et il lui a expliqué que, pour lui, la valeur, la principale des valeurs, c'était de la tolérance, mais qu'il y avait quelque chose qui empêchait la tolérance, c'était l'intolérable, et que ça, c'était intolérable.
Vous avez gardé des rituels, alors d'écriture, je n'ose pas vous le demander, parce que vous décrivez quand même bien la perfection avec laquelle votre père relisait et corrigeait ses livres, vraiment pendant très longtemps. Des rituels de lecture, peut-être. Est-ce qu'il avait autant de rituels concernant la lecture?
Alors, rituel, je ne dirais pas rituel, mais il était un lecteur, il était avide de lecture et curieux. C'était fou. Fou. Si vous laissiez traîner un livre... Bon, à Paris, c'était plus rare, parce que j'arrivais quand même rarement avec un livre que je déposais chez lui. Mais en vacances, ça arrivait, puis ça arrivait à des amis. Et dès que quelqu'un cherchait un livre qu'il avait laissé, je sais pas, sur un canapé, ou enfin, vous voyez comment on peut lire ces livres en vacances, de temps en temps, on les lâche, ne serait-ce que pour aller déjeuner ou dîner, ou je ne sais pas. Et il arrivait régulièrement que des amis, moi, enfin bref, on cherche nos livres, parce qu'on ne les retrouvait plus. Et moi, je savais très bien pourquoi on ne les retrouvait plus. Parce que mon père ne pouvait pas voir un livre sans, sans l'ouvrir. Et si ça lui plaisait, il le shippait. Alors, il le restituait. Hein. Bon, il le muchait pas pendant des heures, mais ni des jours. Non, des heures, oui, mais pas des jours. Il le restituait. Il finissait par le restituer. Enfin, il n'avouait pas son larcin. Il ne disait pas « Je t'ai emprunté ton livre ».
Non, non. Vous avez récupéré cette manie ?
Non. Non. Non, j'ai suffisamment à lire. J'ai des manuscrits, j'en ai toujours un petit sous le coude. Donc, non. Je pense que si ça me tente, je demande à la personne qui est en train de lire si je peux lui emprunter son livre.
Votre père a une grande distance avec la vie, la réalité. Alors, dans ce livre, il a des formules très, très drôles dont il a le secret et qui font sa légende. Donc, il taxe la réalité finalement de stage dans lequel nous serions tous. Et donc, cette vision extrêmement ludique de la vie, tout à l'heure vous avez expliqué que c'était vraiment le même, approximativement, entre les moments publics et les moments d'intimité. Tout était un jeu pour votre père ?
Alors, je dirais pas que. Non, c'était pas un jeu, mais l'humour était un remède, était une manière de justement de résister à la souffrance et à la difficulté d'être. Avec l'humour, vous déverrouillez à peu près tout, et les conflits et même les tourments. Vous pouvez d'abord vous rire de vous-même, rire d'une situation. Et ça désamorce quand même beaucoup de choses.
Est-ce que cet humour par excès empêche parfois de dire sincèrement ? Et du coup, il vaut mieux écrire ?
Sans doute. Sans doute. Sans doute. C'était, en fait, bizarrement, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup livré et confessé à travers ses livres, mais c'était quelqu'un de très, très pudique.
Donc c'est vraiment dans sa lecture, dans la lecture de ses livres, que petit à petit on peut déceler un peu de cette âme-là.
Je pense que oui.
Est-ce que sa popularité tient de ce point-là précisément, d'après vous, de ce point en connexion avec les lecteurs, qui est finalement cette sensibilité à se livrer?
Je pense que ça tient à ça. Je pense que ça tient à quantité de choses. Ça tient à. C'était quelqu'un d'extraordinairement cultivé et d'érudit, mais qui avait cette érudition joyeuse, cette intelligence souriante et très accessible, ce qui n'est pas si courant. C'est-à-dire que des savants, il y en a. Mais des savants accessibles et des savants qui n'ont pas envie de garder leur science pour eux-mêmes ou de parler entre eux. Donc il est l'érudition, c'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de communiquer, c'était d'échanger. Et c'était quelqu'un qui était vraiment ouvert au monde. Et ouvert au monde, ça veut dire à l'univers et au monde autour de lui, mais à l'autre. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait aux autres. Et aux passants, quand il avait un lecteur en face de lui, et que même si ça durait quelques minutes, il s'intéressait vraiment à l'autre. Et certainement, quand il était interviewé, moi qui accompagne quand même beaucoup d'auteurs dans les tournées, et qui voit comment les auteurs se comportent, la plupart d'entre eux sont très professionnels, ils s'expriment très bien quand ils parlent de leurs œuvres, ils expliquent très bien en quoi consistent leurs œuvres et ce qu'ils ont voulu dire et pourquoi, la genèse, enfin bon. Donc, mais ils parlent de leurs œuvres. Puis une fois que c'est fini, je ne dis pas qu'ils ont oublié le journaliste, mais bon, ils ont présenté leur livre, défendu leur livre. Mon père, ça l'intéressait presque plus de savoir D'où vous venez? Pourquoi? Ah oui, puis vous avez passé le concours de journaliste dans telle année et on s'est croisés. Enfin bon, bref, il vous aurait mitraillé de questions, peut-être pas sur l'estrade, mais après, et ça l'aurait vraiment intéressé. Et ça l'aurait, disons que sa visite chez Bola, ça aurait été, ça l'aurait beaucoup plus intéressé de vous rencontrer, de vous poser un certain nombre de questions, de poser à Denis Mola des questions sur la librairie et Bordeaux et pourquoi. Et voilà, c'est plus que de vendre sa sauce. C'était pas ça son objectif. Et je pense qu'il y a peu de gens qui sont comme ça. Et puis, je pense que c'était quelqu'un de dialogue. Il adorait le dialogue. Et il aimait qu'on qui est une sorte de challenge ou de que le débat soit animé, que ça puisse être controversé même, parce qu'il n'aimait rien de plus que d'être confronté à une opinion divergente, d'y réfléchir, évidemment de finir par l'épouser, parce que c'était quelqu'un qui avait quand même tendance à entendre le point de vue de l'autre presque plus que le sien. Donc je pense que c'est tout ça qui faisait qu'il était, qu'il avait ce charme et ce et que qu'on l'aimait parce que non, il était accessible, il était je sais pas, moi c'est plutôt à vous d'expliquer. Moi je ne peux vous donner que quelques clés. Je suis pas sûre d'être la spécialiste absolue de Jean-Dorme Besson.
Finalement, il vous a bien préparé à être une éditrice.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de vivre aux côtés d'un homme qui, c'est-à-dire que, alors là encore, c'est quelqu'un pour qui l'écriture était une nécessité absolue, comme beaucoup d'écrivains, qui passaient sa vie à écrire. Enfin, tous son temps libre, il le passait à écrire. Et c'était sa passion. C'est sûr que les livres, c'était sa passion. Écrire, mais lire. Et il adorait découvrir de nouveaux auteurs. Et c'est, là encore, c'était un auteur qui aimait beaucoup découvrir de jeunes auteurs, ou découvrir des classiques oubliés ou des auteurs oubliés. Et il a il détestait, enfin il ne voulait pas écrire de préface parce que on le sollicitait constamment. Il s'est dit que s'il commençait à écrire des préfaces, il passerait sa vie à ça. Mais en revanche, il a défendu une philosophe suisse qui s'appelle Jeanne Hersch, un auteur également suisse qui s'appelait Fritz Horn, Isaac Bajewik Singer. Il a écrit nombre de chroniques sur Singer. Et il adorait partager ses passions littéraires. À la fois écrire et lire, c'était deux choses qui étaient essentielles dans son existence.
Merci, Héloïse d'Ormesson.